Lacan, par rapport à l'intertextualité dont tu dis,
oui,
je prends la page parce que tu l'as tendue de cette façon-là, ça c'est problématique parce que si on suit la pensée lacanienne jusqu'au bout, il n'y a pas de dialogue en fait, hein, il n'y a qu'une sorte de monologue où un sujet est pris dans un rapport problématique avec un objet du désir, avec un fantasme, et donc ce qui définit pour Lacan le moi, c'est son aveuglement fondamental, donc il se trompe toujours. Donc si on part dans une optique lacanienne, pour problématiser l'intertextualité, c'est intéressant, là,
un colloque facile,
à part sur cette question. Cela dit, mon désir, c'est de titiller la théorie littéraire sur cette question de l'intertextualité, que je situe dans un cadre global. J'ai présenté une communication à Bordeaux, là, au congrès de la SES, je parlais d'écrivain comme truchement. Moi, l'écrivain est un truchement, comme le montre son étymologie arabe, le truchement c'est le traducteur, c'est le tojman, c'est-à-dire celui qui traduit le discours de l'autre, justement, l'inconscient, symbolise, peut-être pas si simple, un système sémiotique. Et là, on est entré dans une verticalité, dans un soi qui est problématique, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui établit des liens, c'est pour moi le trait d'union et ce que je n'osais jamais lire ni écrire avant, c'est qu'il établit aussi des liens avec la société, avec le monde, et il y a une perception du monde qui est chez l'écrivain. Alors j'ai lu toujours des écrivains comme on est naturaliste, Norris, Zola, etc., parce que là, il soulève certaines questions, il y a cette intention de l'auteur, celle que la nouvelle critique américaine appelait intentional past. Alors, donc, c'est dans ce cadre que je situe un petit peu mon intervention. Mon analyse donc, part d'un désir d'élucidation d'un aspect intertextuel, j'ai toujours ignoré, de le dire, minimisé, on en est en cas relativisé, la dimension culturelle de la citation, qu'elle soit explicite ou implicite. Comme pour Roland Barthes et les télistes en général, l'intertextualité était pour moi fermé sur le texte, celui-ci étant autoréférentiel, marqué par la littérarité, qui est sa forme essentielle, étant fixée par sa dimension linguistique, au sens sociurbien du terme, la langue système, la synchronie, puis en même temps la maîtrise de l'énoncé, c'est ce qui définit la parole selon Saussure, et aussi la poétique selon Jacobson, le message en tant que tel. Donc, il y a chez, en partant des formalistes russes, en passant par le cercle de Prague, une Saussure bien évidemment, New Criticism et les Telkélistes, on est dans une sorte de clôture paradoxale du texte qui parle d'un infini en même temps. C'est-à-dire, le texte est une mosaïque citationnelle, c'est un intertexte fondamental, le texte se construit par la citation, l'appropriation, alors la parodie Genève a fait une sorte de taxonomie qui nous permet de classer avec une rigueur quasi mathématique, en tout cas structuraliste, ces choses-là. Et finalement, c'est une clôture, c'est une ouverture paradoxale. Parce que on définit, surtout dans le discours de Roland Barthes, on définit toujours, on commence par définir le texte par ce qu'il n'est pas, ou ce qu'il ne devrait pas être. Roland Barthes, c'est une sorte de titre chez lui, bien sûr son style est magnifique, très très beau, mais il y a quelque chose de symptomatique qui est pour moi une sorte de tic chez les théoriciens textualistes, de dire que finalement il y a la liberté, le texte me rend souverain en tant que lecteur, mais en même temps voilà comment je ne dois pas aborder ce texte. Autrement dit, pour Barthes, il n'y a de déterminisme que citationnel, ce qu'il appelle les voies citationnelles, et il évacue les autres formes de déterminisme. Alors là, je renvoie à son analyse textuelle d'un texte d'Edgar Poe, paru dans l'Aventure sémiologique, où il parle du texte branché, le texte branché sur d'autres textes, d'autres codes, c'est l'intertextuel, articulé de la sorte sur la société, l'histoire, non selon des voies déterministes, mais citationnelles. La production, ce qui est en train de se produire, ne laisse pas de place à la contingence, mais renvoie une contingence formalisée, prévisible par la définition même du texte, comme une mosaïque de voies citationnelles. Autrement dit, l'énonciation renvoie à un ensemble d'énoncés externes, devenus par les voies citationnelles mêmes des unités de discours qui créent une structure enchâssée ou réflexive, qui étend l'espace textuel ou l'approfondissent tout en l'enfermant, puisque, je cite Christéva, tout texte se construit comme mosaïque de citations. Sémiotique, page 146. L'intertextualité est paradoxalement devenue une ouverture bornée. Le texte crée son propre monde en se coupant du monde ou de ses déterminismes prétendus, et c'est sa forme intertextuelle qui permet de soutenir cette idée fondamentalement textualiste. L'intertextualité, normalement, ouverture sur l'autre, sur d'autres, est devenue le moyen même qui permet de valider la théorie autonomiste du texte. Ouvert sur lui-même, ouvert sur l'autre, en tant que même, c'est-à-dire un autre texte qui est l'autre mosaïque de citation. Donc on est dans une sorte de jeu de reflets spéculaires infini, mais l'infini textuel, c'est finalement ce vis-à-vis-là qui le permet. Alors, donc de valider la théorie en tant que même, dont il reproduit indéfiniment la structure, devenue ainsi une structuration mobile, je cite Roland Barthes, grâce à l'acte de lecture. Mais avant de trouver des extensions dans l'espace de la lecture, la nature fondamentalement intertextuelle du texte crée l'illusion d'un infini textuel, balisé par une taxonomie rigoureuse qui nous permet de nuancer les catégories intertextuelles. Donc, tout à l'heure, je faisais référence à Genet. Bakhtin, adapté notamment par Christéva, disait que discours rapporté, c'est le discours dans le discours, l'énonciation dans l'énonciation, mais en même temps, un discours sur le discours, une énonciation sur l'énonciation. Donc, il désigne ici la linguistique comme ce qui convenait à des structuralistes comme Todorov, même si Bakhtin, à certains temps, parle de ce qui est translinguistique, hein, c'était essentiel pour lui, mais c'est cette dimension linguistique, son analyse du discours d'un point de vue linguistique, qui va être adaptée à l'étude d'un récit comme « Les mille et une nuits », où on peut lire, alors Todorov fait une analyse merveilleuse de ce conte, qu'est-ce qu'il y voit, l'illustration même de ce qu'il appelle le récit apsychologique, c'est-à-dire le récit anti-jamesien, parce que pour James, l'action illustre le caractère, alors que là, dans Les mille et une nuits, on a au contraire une action qui s'enchaîne et qui est déterminée par la nécessité de dire ou de se faire tuer ou de mourir. Donc, qui permet à Todorov de dire que la fonction essentielle du récit, c'est d'être le récit d'un récit, c'est le sort de tout récit qui se réalise à travers l'enchassement. L'enchassement narratif ou intertextuel, l'infini sur lequel il ouvre, permet, selon les termes de Barthes, de produire une structuration mobile du texte, celle qui, je le cite, celle qui se déplace de lecteur en lecteur tout au long de l'histoire avec un H majuscule. En vérité, Roland Barthes ne définit pas cette structuration mobile du texte. Il désigne, en revanche, le lieu unique qu'on doit occuper, celui du volume signifiant de l'œuvre, tout en précisant, comme il le fait souvent au début de ses analyses, qu'on ne doit pas faire, d'abord, ce qui ne doit pas être pensé ou considéré. Il nous dit que l'analyse textuelle ne cherche pas à savoir que le texte est déterminé, rassemblé comme terme d'une causalité, mais plutôt comment il éclate et se disperse. C'est justement cet interdit cartésien que j'ai envie de transgresser ou de franchir, même si je m'y suis assujetti ou soumis pendant plusieurs années. Alors, je souhaite transgresser. Ce faisant, je reviens vers les fondements de l'intertextualité, à savoir le dialogisme selon Bakhtin. Bakhtin nous dit ceci. Deux œuvres verbales, deux énoncés juxtaposés l'un à l'autre, entrent dans une espèce particulière de relation sémantique que nous appelons dialogique. Les relations dialogiques sont des relations sémantiques entre tous les énoncés au sein de la communication verbale. Or, c'est très bien que cette dimension communicationnelle va être elle aussi écartée de la théorie littéraire qui met plutôt l'accent sur la signification. Je parle pour signifier, d'un point de vue lacanien, pour me signifier, c'est-à-dire pour, là encore, reproduire l'illusion d'une identité que je maîtrise. Alors que pour Bakhtin, la communication est importante, de même que l'intention de l'auteur. La prise en compte de la dimension sémantique et communicationnelle chez Bakhtin lui permet de reconnaître le lien fondamental que le texte entretient avec le monde. Puisque tout énoncé, selon Bakhtin, révèle une conception du monde, le dialogisme étant précisément la mise en relation de ces conceptions du monde que l'énoncé donne à lire ou à entendre. Bakhtin note de manière, je trouve, particulièrement éclairante, d'autant plus que les penseurs qui s'intéressent à la traduction sont assez rares, hormis des gens comme Derrida, par exemple. Alors, il nous dit, il note donc que dans le processus de création littéraire, l'éclairage réciproque d'une langue maternelle et d'une langue étrangère souligne et objective précisément le côté conception du monde de l'une et l'autre langue, leur forme interne, le système axiologique qui leur est propre pour la conscience qui crée l'œuvre littéraire, bien d'intention. Ce ne sont évidemment pas le système phonétique de la langue natale, ses particularités morphologiques, son lexique abstrait qui apparaissent dans le champ éclairé de la langue étrangère, mais précisément ce qui fait de la langue une conception du monde concret et intraduisible absolument, précisément le style de la langue en tant que totalité. On peut ici compléter ou nuancer l'observation de Bakhtin en considérant la langue comme une composante essentielle de la culture, c'est la définition de l'anthropologie de Lévi-Strauss. La langue est l'un des éléments fondamentaux qui définissent une culture. De même que la présence d'une autre langue, si le texte y fait recours, permet d'objectiver cet aspect conception du monde. Le recours par l'intertextualité à une autre culture, l'objet de mon étude proprement parlée, permet de mettre en évidence les codes culturels qui déterminent la production textuelle au-delà des motivations purement esthétiques telles que traduites par le jeu de la réflexion. Cette dynamique est complexe parce qu'elle implique la dynamique de l'interculturalité qui passe, se réalise par l'intertextualité, parce que au-delà de ce qui est suggéré ici par Bakhtin, parle de la mise en relation, c'est ça l'intertextualité qui est repris par tel quel en général, Christeva, la mise en relation de deux discours, elle implique donc une dimension transformationnelle, donc forcément un rapport de force, qui est opérationnel dans le cas du texte que je vais étudier, au niveau diégétique, c'est-à-dire la parodie de l'hypotexte, peut-être, mais aussi au niveau formel, c'est-à-dire son imitation structurelle, son appropriation structurelle, selon une dynamique d'acculturation, par quoi les codes culturels entrent dans un mouvement dialogique problématique qui engage les institutions, les idéologies et des réalités textuelles globales qui sont traduites en tant que telles ou traduites par des unités de discours, comme le nom, par exemple, le titre, ou l'interjection. Mon intention initiale a été de travailler sur un corpus beaucoup plus étendu, c'est-à-dire beaucoup d'auteurs américains du 19e et du 20e siècle, Emerson traducteur de la poésie perse, en se basant sur une traduction allemande, traduit Hafez, de Thanistique perse, en passant par un traducteur, grand admirateur de romantisme allemand, et en tant que tel, il est ce truchement pour moi, justement, c'est le passeur culturel. Dans une Amérique, dans un contexte américain, où on cherche au contraire à construire là une littérature nationale, justement, une littérature nationale. Et Emerson, dans ses discours, qu'est-ce qu'il nous dit dans ses essais là, paradoxalement, il faut se dépouiller, il faut créer l'identité américaine, il faut arrêter de se référer aux anciens et au passé. Hein. Alors que l'autre côté, celui qui écrit, au contraire, est attentif à ces voix qui viennent d'ailleurs. Je voulais également travailler sur Hemingway, je trouve de plus en plus, alors avant j'ai fait ma thèse sur Hemingway, une longue thèse, et puis j'ai consacré un long chapitre à l'intertextualité, mais il n'était absolument pas question pour moi à l'époque de penser même à l'objet culturel, alors que chez Hemingway, on parle espagnol, on parle français, on parle allemand, il y a des dialectes autrichiens. Il y a quelque chose qui est là, ces unités, justement, ces codes culturels qui sont présents dans le texte, mais que je ne voulais pas entendre en bon tel quéliste que j'étais. Voilà. Alors, Aujourd'hui, ça me saute aux yeux, ça s'impose à moi. Je dis, mais il y a quelque chose là, il y a une lingua africaine, il y a une lingua italienne, l'espagnol, le français. C'est quelque chose. Et puis, également, un écrivain postmoderniste comme John Barr, qui fait lui aussi une parodie des mille et une nuits. Et je voulais également penser à une autre forme d'intertextualité, qu'on peut avoir une catégorisation la plus représentative possible, en pensant à des écrivains minoritaires comme Scott Momoday, qui est un écrivain amérindien, donc il joue sur l'oralité et l'écriture. Et là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il s'approprie aussi le discours de l'autre dominant, mais il revient vers sa culture originale et il en fait quelque chose. Finalement, j'étais assez réaliste et modeste, je limite mon étude, j'ai limité mon étude pour ce colloque à la parodie que fait Poe, de Ralph Poe, des Mille et Une Nuits. À vrai dire, ce n'est pas une parodie des Mille et Une Nuits, ce n'est pas vraiment les Mille et Une Nuits qui sont désignés comme le texte cible, non, c'est Scheherazade. Et de même que pour Barr, d'ailleurs, c'est Dounhiazade, alors dans la nouvelle paru dans les Chimères, je crois, son article Chimères. Le personnage s'appelle Dounhiazade, mais le titre c'est Dounhiazadiad. Donc il joue sur Iliade, etc. Donc là, c'est une recréation, une sorte d'épopée. Il passe par les Mille et Une Nuits en valorisant la place de la narratrice. Parce que dans les Mille et Une Nuits, Dounhiazade est la sœur de Scheherazade, la conteuse, et le roi est dans une position. Alors c'est assez complexe parce que les Mille et Une Nuits, c'est soit fairy tales, entertainment, si on se base sur des traductions de Galland en France, le premier qui a traduit, ou de Lane en Angleterre, des éditions expurgées de toute référence à la sensualité, à l'érotisme. Alors, on a voulu en faire un peu des sortes de contes pour le divertissement qu'on pouvait lire en famille, etc. Alors qu'il y a une dimension fondamentalement transgressive, et ça engage l'ordre symbolique, parce que qu'est-ce que c'est les Mille et Une Nuits? C'est un roi qui se fait trahir par sa femme, qui, alors lui, il va faire une partie de chasse avec son frère et toute sa cour. J'ai dit roi, en fait, je dis un sultan. Là, c'est interculturel, ton cœur. Ton cœur, oui. Donc c'est un sultan, un calife. Et en rentrant chez lui, il trouve sa femme en train de s'accoupler avec un esclave, etc. Donc traumatisme. Lui, il chute dans une forme d'obsession, ou si on interprète ça d'un point de vue psychanalytique, une sorte de traumatisme originel qui s'ouvre, de béance, et surgit à la place de la femme la chose, celle qui me mange, celle qui me bouffe. Donc réaction radicale, pour ne plus être trompé, autant tuer toutes les jeunes et mes épouses, je l'épouse au coucher du soleil et je la fais tuer avant le lever du jour. Alors, Scheherazade veut mettre un terme à ça, à ce chaos social. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son père, elle propose à son père d'aller épouser le roi, enfin, le sultan. C'est elle qui fait cette demande. Ça, c'est important. Par rapport à ce qu'on fait dans sa parole. C'est elle qui fait cette demande. Son père, bien sûr, refuse. Elle défie le nom du père, et parce que ce n'est pas le nom symbolique du père, parce que c'est un nom imaginaire. Parce que le nom symbolique du père, c'est celui qui dit non au massacre. C'est un petit peu cette position que assume Antigone. Il y a l'interdit du roi, mais il y a au-dessus, c'est-à-dire que chaque homme a le droit à une sépulture au roi. C'est le vrai nom, le nom symbolique, il est là. Alors que le nom du père de Scheherazade, qui est un vizir, un grand vizir, est un nom imaginaire qui veut protéger sa fille. Mais Scheherazade est quelqu'un qui a beaucoup lu. Elle a lu les philosophes, elle a lu le Coran, elle a lu les maths, etc. Et ce qui me touche dans les Mille et Une Nuits, c'est ce profil d'une femme savante. C'est la femme narratrice, c'est-à-dire la femme qui est devenue le maître du discours. Alors que jusque-là, la plupart des épopées, Gilgamesh, l'Odyssée, etc., sont des voix d'hommes qui contrôlent le récit. Là, c'est la voix de la femme qui contrôle le récital, et elle le contrôle pour soigner le roi par. Alors, on n'est pas dans une talking cure, mais dans une sorte de listening cure, C'est-à-dire, il y a la part du signifiant, mais il y a l'image aussi. L'image telle qu'elle s'inscrit dans l'esprit de l'auditeur. Mais un auditeur dont la position est relativisée par la présence de la sœur. La sœur est présente. Un jour, elle demande à Shahrazade, ma sœur, raconte-moi une histoire. Et c'est par là qu'elle tient le projet. C'est-à-dire, elle commence des récits et qu'elle interrompt au lever du jour, au moment de l'exécution. Et le roi est tellement passionné par l'histoire qu'il lui donne un délai et le délai se transforme en 1 et 1 minute. Donc, c'est important cette structure-là, c'est-à-dire une féminité créative, productive, vitale, une féminité qui soigne, une féminité qui défie le nom du père, patriarcal, et en plus, les femmes qui apparaissent dans les 1000 et 1000, alors on a grosso modo, il y a 3 types de femmes, disons, de personnages féminins. Il y a les femmes sensuelles, séductrices, qui vivent librement leur sexualité, qui transgressent toutes sortes d'interdits sociaux. La femme du riche qui a des relations avec le pauvre, avec la maîtresse, avec l'esclave, etc. Donc c'est une perception de la féminité qui est révolutionnaire pour l'époque. Hein. Donc, ce sont des contes qui renvoient, qui sont contemporains pour la plupart. À l'époque de Haroun al-Rachid, c'est-à-dire l'apogée de la civilisation arabo-musulmane à Bagdad. Donc c'est Haroun al-Rachid, c'est-à-dire le 9e siècle. Et en même temps, alors on a des femmes magiciennes qui ne sont pas des sorcières, hein, ce n'est pas la sorcière qui vit au fond de la forêt, ce sont des femmes qui vivent dans tout le monde et qui ont des pouvoirs surnaturels et qui peuvent se venger de leur mari s'il les a trompés, ou elles peuvent transformé en chien. Mais il y a la troisième catégorie, et c'est la plus importante, qui apparaissent dans la diégèse, et surtout ici dans le récit, sont ces femmes savantes, rationnelles, qui sont capables donc, de créer de l'ordre social moyen du désordre. Alors, je présente les choses comme ça, et vous l'avez bien vu, je ne suis plus du tout mon texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire les grands axes de ce texte qui est d'abord intitulé par Edgar Allan Poe, The Thousand and Second Night of Shahrazad. Alors, c'est un texte, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, hein, je ne m'intéressais pas là encore du tout à ces aspects multiculturels chez Poe, et finalement, donc là, je vous en remercie d'avoir organiser ce colloque, d'avoir donné envie de retravailler sur la question de l'intertextualité, je trouve un peu orientaliste. Je ne savais pas. Pour moi, Poe, c'est du fantastique, c'est l'obsession, la peur obscure, l'inconscient, etc. L'Igea, tout ça, ou alors, bien évidemment, ce magnifique texte qui est la lettre volée, de voir un peu ce que Lacan en a fait, Derrida. Bon. Mais je trouve un peu, dans ces poèmes, qui se réfère très souvent au Coran, aux 1000 et 1 nuits, à des textes d'Orient, il transforme, alors il y a de la supercherie, c'est-à-dire de fausses citations, parfois il se base, il se fie à des traductions un peu erronées, donc des choses fantastiques, faites par un traducteur comme Seyd, par exemple, du Coran, avec des notes de bas de page complètement folle, et qu'il reproduit tel quel, parfois au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui a lu attentivement les sources, mais l'hypothèse de référence qui est toujours là, ce sont surtout les 1000 et 1 nuits qu'on retrouve dans les contes, soit dans le décor, dans l'Igea par exemple, ou chez le grand voyage de Pérou, aussi dans l'océan, on retrouve Sinbad, etc. Mais ce qu'il fait avec cette Thousand and Second Tale of Scheherazade, comme l'ont appelé les traducteurs anglais, c'est là, il épuise déjà, ça a été publié en 1843, je crois, 44, ça va être la période un peu finale quoi, de son œuvre, toutes les formes d'intertextualité sont là. Alors l'épigraphe, la fausse épigraphe, la vérité dépasse la fiction, nous dit un vieux dicton. L'épigraphe, après déjà une transformation par des multiples. Et puis on lit, alors, beaucoup d'impéto, des commentaires un peu ludiques, comiques, ironiques sur Shahrazad, qui l'empêche de parler. Il intervient tout le temps. On a, alors, il imite bien sûr la structure enchâssée des mille et une nuits. On a le R1 dans lequel le narrateur part d'un certain Tell me now, is it so or not? Un livre orientaliste qui figure dans une anthologie de littérature américaine qui s'appelle Curiosities of American Literature, qui existe réellement, ce livre, mais pas le Tell me now, is it so or not? Donc, il brouille les codes entre fiction et réalité, le faux et le vrai, l'exemple, le semblable et l'invraisemblable. Alors, avec des références aussi à la cabale juive, voilà. On est dans une sorte de géographie interculturelle intéressante avec cette visée d'homogénéisation. Parce que pour moi, la parodie joue principalement sur l'homogénéisation, le brouillage des codes, la parodie en général. Mais dans la parodie intertextuelle, cette homogénéisation va de pair avec une dynamique d'hétérogénéisation qui est de fait ou voulu par l'écrivain. Le nom, par exemple, un nom étranger, une langue étrangère, ça participe là d'un moment où le texte crée un écart, on se dit, ah, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce que j'en fais? Jusqu'où cet écart est-il réduit? Jusqu'où, au contraire, est-il creusé? Donc ça, c'est le R1. Récit 1, récit 2, donc c'est le Is it so or not? Discours rapporté, donc on dirait Baptiste, ce que j'existais tout à l'heure, énonciation dans l'énonciation. Et que nous dit ce Is it so or not? Oh là là, il y a une erreur monumentale. On aime tous bien les conclusions heureuses, c'est magnifique, tout se termine bien avec Sherazade, elle a triomphé. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Comment s'est passé? Sherazade a une magnifique idée de dire donc, à celui que le narrateur appelle un roi, et elle, c'est la reine. À un certain moment, elle est même une charmante demoiselle qui a probablement lu Machiavel. Faire Sherazade. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à sa sœur et en même temps au roi? Bien écoutez, je me suis rendu coupable d'un grand manquement. C'est quoi le grand manquement? La culpabilité. Je vous ai caché, en fait, l'ultime récit de Sinbad. L'ultime récit, je vous l'ai caché. Et maintenant, je vais vous le raconter. Alors, quand ils sont contents, Shahriar, etc. Ok, donc elle commence à raconter. Donc là, on est dans un récit enchâssé au troisième degré. Là, c'est Sherazade qui parle, c'est sa voix qu'on entend. Mais sa voix, son récit en chasse, le quatrième récit, qui est celui de Sinbad, le marin, mais qui est un récit complètement inventé par Peul. Il n'existe pas dans les mille et une nuits. On a un Sinbad qui est un homme du 19e siècle, un peu, un truc swiftien aussi, qui décrit des phénomènes industriels qu'on est censé repérer comme modernes, scientifiques, en utilisant bien sûr une imagerie animale, puisque Sherazade, qui est censé avoir inventé ce récit, n'a pas les mots. Mais pourquoi voit-elle si loin dans ce 19e siècle qu'elle est en train de nous décrire et de voir? C'est aussi une question intéressante. Mais le narrateur d'ensemble procède à un autre brouillage en nous mettant des notes de bas de page. Ces notes de bas de page créent, là encore, un brouillage, une homogénéisation géographique, notamment, puisque les réalités merveilleuses sont ces terres rapportées par Sinbad le marin, sont comparées à des réalités tout aussi merveilleuses, mais scientifiquement avérées, qui sont des forêts dans le Texas, dans le Kentucky, etc. Et puis, on entend les réactions du roi, les interjections, donc plus aujourd'hui au départ, nous dit le narrateur, il lui disait, en langue arabe probablement, alors ce sont juste des et Sherazade comprend qu'il est tout lui. Erreur fatale, parce que ces interjections expriment l'agacement du roi. Elle le prend pour un imbécile fou. Les réactions du roi deviennent après des phrases. Donc là, des phrases claires. Non, du cœur, il y en a marre, mais c'est quoi ça? Et Sherazade ne comprend toujours pas, elle continue à raconter son récit, et puis à la fin, elle lui dit, j'en ai marre, stop it. Il lui dit maintenant, tu mérites d'être exécuté, tu m'as pris pour un imbécile, et voilà, donc il l'a fait exécuter par étranglement, strangulation. Quand on arrive là, on a rigolé un bon coup, On a apprécié aussi la dimension autoréflexive de ce récit, autoréférentiel. On a bien vu que Poe se projette un peu dans la narratrice, dans la figure de la narratrice, lui-même étant un narrateur en écrivain. Donc, il y a des aspects réflexifs qui sont très très intéressants, même si d'après les recherches bibliographiques que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé un travail consacré entièrement à cette question dans ce conte, si ce n'est les remarques de Claude Richard dans la traduction, parce que j'ai utilisé également une belle édition de Feu Claude Richard, son plus travail éditorial de traducteur, retraducteur, des notes aussi, cette fois-ci, scientifiques et précises, qui nous permet un peu de percevoir ça, qui lui-même dit, dans un petit paragraphe, elle est la figure de l'artiste de Poe. Je ne nie pas ça, cette
dimension. Mais un nouveau livre, Justin.
Oui, c'est ce que m'a dit tout à l'heure Françoise Saint-Marcé, merci. Ça m'a donné envie de le lire. Donc, on a rigolé un bon coup, mais dans cette intention parodique, j'ai eu un petit soupçon. J'ai dit, il y a quelque chose qui sabote ça. Parce que le personnage évolue vers une position tragique. Alors, ça peut faire rire les uns, mais bon, franchement, pas. Surtout quand on connaît la vraie chose. Donc là, on voit un peu le travail, une sorte de violence qui s'exerce sur l'hypothèse. On se demande pourquoi. Pourquoi il en fait un personnage tragique? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on fait une enquête. Donc, un personnage tragique, parce que Shahrazad devait être sacrifié. Et elle meurt d'ailleurs, soumise, quelque sorte, heureuse, comme meurent des héroïnes, Iphigénie, etc. On est dans la dimension sacrificielle. Or, que fait la vraie Shahrazad? C'est la femme qui refuse la position sacrificielle. C'est la femme qui refuse la position de la femme qui est dans l'abnégation, etc. C'est la femme qui va au contraire agir sur un monde d'hommes et le transformer et l'adapter. Non pas par la séduction, par la ruse ou le mensonge, mais par la narration, par la création artistique. Et à partir de là, c'est à partir de là que j'ai commencé à être attentif à ce que j'appelais tout à l'heure en discutant les codes culturels. Pourquoi alors, on peut penser à une sorte d'hybridation qui est le propre de la parodie, je disais l'homogénéisation. Mais il y a aussi dans ce récit une mise en évidence de l'altérité du personnage, que ce soit par la reproduction de la langue, ou des titres d'ouvrages, ou la désignation d'aires géographiques, etc. Alors, en deux minutes, il y a, si vous voulez, trois codes qui apparaissent. Un, les transformations. Shahrazad est introduite dans le récit comme la fille du vizir. La fille du vizir. Alors que dans les mille et une nuits, je l'ai dit tout à l'heure, le vizir est affaibli par, au contraire, l'autorité intellectuelle de la fille. Là, elle devient la fille du vizir. Lequel vizir, nous dit le narrateur, si le roi, au fond le roi avait envie de demander la main de Shahrazad, mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il éprouvait une certaine crainte du vizir. Chose qui n'existe pas dans le texte original, puisqu'au contraire, c'est le vizir qui craint le calife. Et le calife n'avait jamais du tout l'intention de demander la main de Shahrazad, c'est elle qui va et qui demande pour ainsi dire ça. Vous voyez la transformation radicale. Deux, Shahrazad n'est pas intelligente, elle est au contraire idiote. En revanche, elle est belle. Faire Shahrazad avec ses grands yeux noirs, n'arrête pas de mettre en évidence sa beauté physique. Troisième point, il la compare. Métissage à Ève. Elle est la descendante en ligne directe du vizir. Donc, on a la fille soumise à l'autorité patriarcale, deux, la femme belle, donc séductrice, enchanteresse, avec sa voix, on dit c'est la sirène un peu, qui parle, qui trompe le roi, celui que le narrateur appelle un roi. Et donc, là encore, c'est un code, hein, signifiant ici le déterminé signifiant très important, parce que le roi, c'est le représentant de Dieu le Père sur terre. Chose que le calife n'est pas. Le roi, oui. Enfin, Ève, donc c'est la pécheresse. La question, finalement, on se pose, c'est pourquoi la strangulation? Encore, c'est une transformation parodique. Parce que Shahrayar, quoi qu'il faisait, il coupait, il décapitait les victimes. Et là, il l'étouffe, il l'étrangle. Pour étouffer la voix, justement. Parce que c'est Circé qui transforme les gens dans le récit. Marin, le marin. Donc, la voix de Shahrazad parle de l'océan, puisque le conte qu'elle choisit, le conte fatal qu'elle choisit, n'est pas un conte autre, mais bien Sinbad le marin. Donc, on a le thème très connotatif chez Poe de l'océan. Et donc, la voix de Shahrazad sort sur cet océan, elle devient une sirène. Et donc, il la tue, et le roi, à la fin, dit, là, finalement, ma conscience commence à me torturer. It has become troublesome again. La conscience initiale. C'est-à-dire, au moment où il décide de la tuer, Shahrazad devient la femme originale, c'est-à-dire la première reine. D'un point de vue psychanalytique, la mère. C'est elle l'originale. Celle qui a menti, celle qui a rusé, celle qui l'a trompé. Donc, vraiment dit, Poe lit ce conte oriental avec sa culture sudiste, et le crime irréparable pour un sudiste des années 1830-1840, c'est qu'un esclave noir puisse coucher avec une femme blanche. Et c'est le crime que commet la reine initiale, et c'est cette figure-là qui ressurgit et qui déstabilise l'ordre patriarcal puritain, et je crois que là, alors, c'est vrai que beaucoup d'héroïnes, je ne sais pas, meurent à la fin, mais c'est une mort qui d'une sorte de transfiguration, elle revient à la vie, c'est le cas d'Igea, etc. Alors que là, non, c'est définitif, elle est sacrifiée. Et ce sacrifice même, d'avoir ramené Shahrazad, qui dit au contraire une féminité expansive, créative, très orientale du coup, alors ça rappelle l'Inde, la Perse, et la grande époque de la civilisation arabo-musulmane à Bagdad, il l'adapte en faisant justement une figure occidentale, chrétienne, inspirée par la mythologie grecque, par la Bible, mais aussi par l'amour courtois, qui nous dit « il n'y a d'amour que malheureux ». Alors que là, dans les contes des mille et une nuits, au contraire, l'amour, ce que vit Shahrazad, c'est quelque chose qu'elle vit à l'extérieur d'elle-même, c'est un engagement qu'elle fait pour les autres, et l'histoire finalement se termine très très bien, et c'est un petit peu comme l'amour dans une psychanalyse, parce que ça passe par des renaissances ou des co-naissances successives que permet le travail de transfert, le travail analytique. Voilà, donc je voulais aussi faire des comparaisons avec la Shahrazad de James, parce que ça fonctionne sur une catégorie différente, et surtout celle de John Barr, qui en fait aussi autre chose, qui lui en fait des féministes, un peu lesbiennes, enfin des sans-seins, un peu comme les Amazones, etc. Donc c'est l'idéologie des années 60 qui détermine. Voilà, donc c'était un petit peu autour de ce qui est.